Évangile selon Luc, chapitre 19, Zachée, versets 1 à 10.
Lecture de la parole. Et il entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. Et il était chef de publicains et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus, quel il était. Et il ne pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Et, courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer là. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit, et lui dit, « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pécheur pour y loger. Et Zachée se tenant là, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Lecture de l'étude. Comme Jésus traversait Jéricho, un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à le voir. Mais à cause de la foule et de sa petite taille, il n'y réussissait pas. Courant en avant, il monta sur un sycomore pour voir le Seigneur quand il passerait. Quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit et lui dit, « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Précieux encouragement pour ceux en qui se trouve un véritable désir de connaître le Seigneur. Lui-même connaît ce désir. Il est venu dans ce monde pour y répondre. Zachée ne pensait pas que Jésus s'occupait de lui, et il ne s'attendait pas à le recevoir chez lui. Le désir réel de voir Jésus lui fait surmonter la difficulté qu'il éprouve pour cela. Il trouvait un écho dans le cœur du Seigneur pour lequel il n'est pas question de la position déshonorante de Zachée comme chef de publicains, gens méprisés par les Juifs, parce qu'il percevait les impôts pour les Romains. Ce qui occupait Jésus, c'était de répondre à des besoins où qu'ils fussent. Chers amis, jeunes ou vieux qui parcouraient ces lignes, si vous avez quelques besoins du Sauveur, vous êtes certain qu'il le connaît, il y répondra. Il cherche dans ce monde où il peut s'en trouver. Il veut aussi remplir votre cœur de joie. Allez à lui. Voyant que Jésus était entré chez Zachée, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pécheur pour y loger. Où Jésus aurait-il pu entrer dans ce monde sans se trouver chez un pécheur? Ceux qui se croient justes n'ont pas besoin d'un sauveur. Ils demeurent étrangers à la grâce, étrangers à la joie et à une éternité de bonheur. Zachée dit à Jésus, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Versets 8 à 10. Jésus dépasse de beaucoup ce que Zachée attendait. Il voulait simplement le voir, et il reçoit chez lui le salut que le Fils de l'homme est venu apporter du ciel aux pécheurs. Zachée dit à Jésus ce que sa conscience droite lui faisait faire. C'était très bien, mais cela ne pouvait pas le sauver. Il faut au pécheur le salut. On ne le trouve qu'en celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous avons vu, au chapitre 18 de Matthieu, qu'en parlant des petits enfants, Jésus dit simplement qu'il était venu sauver ce qui était perdu. En parlant de ceux qui ne sont plus des enfants, il est ajouté le mot « chercher », ce qui indique le travail de conscience que le Seigneur doit accomplir dans une personne pour l'amener à la conviction de son état de péché. Elle se rend compte alors du besoin qu'elle a d'un sauveur et arrive ainsi au point où elle peut le recevoir comme un petit enfant chez qui ce travail n'est pas nécessaire dès le moment qu'il croit tout ce qu'on lui dit. Le salut venu à la maison de Zachée, toute sa maison put en profiter. Malgré sa déchéance comme juif, Zachée était fils d'Abraham, aussi bien que l'aveugle de Jéricho, et ils devinrent fils d'Abraham comme croyants. Parabole des mines, versets 11 à 27.
Lecture de la parole. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc, « Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines, et leur dit, « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne. » Or ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui une ambassade disant, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Et il arriva à son retour après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta disant, « Maître, ta mine a produit 10 mines. » Et il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, et autorité sur 10 villes. » Et le second vint disant, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Et il dit aussi à celui-ci, « Et toi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre vint disant, « Maître, voici ta mine, que j'ai gardé déposée dans un linge, car je t'ai craint parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? Et quand je serais venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. » Et il dit à ceux qui étaient présents, « Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Et ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. Et ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. »
Lecture de l'étude. Dans l'entourage de Jésus, on pensait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Verset 11. Le Seigneur fait comprendre qu'il n'en est rien en disant, « Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. » Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit, « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne. » Versets 12 à 13. Jésus montre par ses paroles qu'il va aller au ciel, ce pays éloigné, et là il recevra le royaume. Puis il reviendra pour revendiquer ses droits comme souverain. En attendant, il donne à ses esclaves, ceux qui l'ont reçu à sa première venue, des dons à faire valoir pendant son absence, chacun étant responsable envers le Seigneur de ce qu'il lui a laissé. Il devait trafiquer, ne pas demeurer oisifs en l'attendant. Jésus ajoute un fait important quant à la culpabilité du peuple juif. Or ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent après lui une ambassade disant, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, verset 14. Non seulement le peuple a rejeté Jésus, son roi, rejet consommé lorsqu'ils s'écrièrent devant Pilate, « Nous n'avons point d'autre roi que César ». Plus tard, Dieu, dans sa grande patience, donna aux Juifs, après la mort de Jésus, du temps pendant lequel Pierre leur présenta encore le Christ, en disant « Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné. » Acte 3, versets 19 à 20. Un petit nombre écouta le message de Pierre et entra dans l'assemblée chrétienne, mais le peuple dans sa masse le refusa, et Étienne, homme plein de grâce et de puissance, leur rappela qu'ils avaient toujours résisté à l'Esprit-Saint, car ils tuèrent les prophètes qui annonçaient la venue du Christ et le mirent à mort lui aussi. Acte 7, versets 51-52.
Gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit-Saint, comme vos pères vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant vous, vous avez livré et mis à mort, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges, et qui ne l'avez point gardée.
Ils lapidèrent Étienne, cet ambassadeur que les Juifs incrédules envoyèrent aux pays éloignés, le ciel, pour porter au roi leur refus définitif de le recevoir. Il fut en même temps le premier martyr chrétien. Néanmoins, le souverain reçut le royaume, et il apparaîtra en son jour pour exécuter les jugements sur la génération qui succédera à celle qui rejeta le Seigneur et qui emportera les caractères. Ainsi que Jésus le dit, « Ceux-là, mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Verset 27. À son retour, le roi prendra aussi connaissance de la manière dont ses esclaves auront fait valoir ce qu'il leur avait confié. Et il arriva à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné de l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Verset 15. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, le maître donne à ses esclaves 5, 2 et 1 talent, tandis qu'ici il remet la même somme à chacun. Il n'y a pas de contradiction dans cette différence. Le Seigneur montre par la parabole de Matthieu que, en vertu de sa souveraineté, il donne à chaque esclave selon l'aptitude qu'il lui reconnaît. En Luc, nous trouvons le côté de la responsabilité de l'esclave. Le premier se présenta disant, « Maître, ta mine a produit 10 mines. » Et il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, et autorité sur 10 villes. » Et le second vint disant, « Maître, ta mine a produit 5 mines. » Et il dit aussi à celui-ci, « Et toi, sois établi sur 5 villes. » Versets 16 à 19. En Matthieu, la récompense consistait à être établi sur beaucoup dans le royaume et à entrer dans la joie de son Seigneur. Elle était plus générale. En Luc, où il s'agit du roi qui reçoit un royaume et vient pour régner, il donne à chacun autorité sur autant de villes qu'il a gagné de mines. Les serviteurs ont fait valoir les intérêts du roi pendant son absence et son rejet. Ils sont associés à lui dans sa gloire, avec la jouissance de ce qu'ils ont gagné, la jouissance de lui-même. C'est ce qui sera vrai pour tous les ouvriers du Seigneur, quelle qu'ait été l'importance du service. On peut aussi remarquer qu'ils n'attribuent pas à leur travail le produit des mines. Ils disent « Ta mine a produit 10, 5 mines ». Ce que le Seigneur donne peut seul fructifier. Aux serviteurs de s'en servir. C'est ce que ne fit pas celui qui vint disant, « Maître, Voici ta mine que j'ai gardée déposée dans un linge, car je t'ai craint parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé, verset 20-21. Même raisonnement qu'en Matthieu 25, versets 24 à 25. Ignorance complète du caractère du maître.
Et celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit, « Maître, je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. »
Car cette connaissance peut seule rendre le serviteur capable de faire valoir ce qu'il a reçu. Comment parler à d'autres de l'amour, du dévouement, de la grâce du Seigneur si on le connaît comme un homme dur, exigeant? On serait placé au sein des privilèges les plus grands, comme dans la chrétienté, qu'on ne pourrait rien faire pour le Seigneur. En Matthieu, le jugement est exécuté sur l'esclave paresseux. Ici, il n'est pas mentionné. L'esclave le subira en même temps que les ennemis du roi qui sont amenés et tués devant lui, tandis que Matthieu n'en parle pas. On ôte la mine à celui qui n'a rien fait pour la donner à celui qui a 10 mines. Mais on fait observer au Seigneur qu'il a déjà 10 mines, à quoi il répond « Je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné ». Et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté, verset 26. Le Seigneur énonce par cela un principe général. Plus on entre dans sa connaissance, plus on est fidèle dans son service et en tout ce qui lui appartient, plus aussi on reçoit, non seulement dans le présent, mais pour l'éternité. Quand les saints seront dans la gloire de tout ce qui aura été manifesté du christianisme sur la terre, il ne restera rien ici-bas. Tout se verra en ceux qui seront au ciel. Ce que la chrétienté actuelle aura paru posséder reviendra à ceux qui avaient la réalité de la profession chrétienne. Que Dieu nous donne à tous d'apprendre à mieux connaître notre Seigneur, afin de puiser dans la jouissance de toutes ses perfections la capacité de le servir en tout ce qu'il place devant chacun de nous. Ne craignons pas de nous prononcer pour lui dans un monde qui le rejette. Bientôt nous aurons part à sa joie et nous partagerons son autorité dans le royaume si nous avons eu part à ses souffrances et à son rejet ici-bas, et si nous nous soumettons à son autorité pendant que les hommes la méconnaissent. Témoignage rendu à Jésus comme roi, versets 28 à 40.
Lecture de la parole. Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et il arriva, comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya deux de ses disciples, disant, « Allez au village qui est vis-à-vis, et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'assit. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi, le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés, s'en allant, trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, les maîtres de celui-ci leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Et ils dirent, parce que le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus. Et ayant jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils mirent Jésus dessus. Et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait déjà à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule, « Maître, reprends tes disciples. » Et répondant, il leur dit, « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. »
Lecture de l'étude. Ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem, verset 28. dans la pleine connaissance de tout ce qui l'attendait, Jésus ouvrait la marche en se rendant avec les siens dans la ville qui tue les prophètes, mais où, pour un instant, il entrerait avec les honneurs royaux. Il devait être encore présenté au peuple comme fils de David, avant son rejet définitif, afin que ce peuple fût sans excuse au jour de son jugement. Le Seigneur se sert de son autorité pour obtenir l'annonce sur lequel il entrera comme roi dans la ville de David. Il dit à deux de ses disciples, « Allez au village qui est vis-à-vis, et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'assit. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi, le Seigneur en a besoin, versets 29 à 31. Ils allèrent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus, et ayant jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils mirent Jésus dessus. Et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin, versets 35-36. Dans ce récit, on constate le bonheur des disciples qui voyaient enfin leur maître accepter les honneurs royaux après l'avoir si souvent entendu parler de ses souffrances, alors qu'ils pensaient à la gloire. Avec quel empressement ils improvisent avec leurs vêtements les tapis qui recouvraient habituellement la voie royale. Mais les pensées du roi devaient être tout autres, bien qu'il prît part à la joie de ses disciples. Il savait tout ce qui l'attendait après cette manifestation éphémère. Il savait aussi que sa présentation comme roi ne ferait qu'accentuer son rejet et augmenterait la culpabilité de la ville sur laquelle il va pleurer lorsqu'elle apparaîtra à ses regards, versets 41-44. Et comme il approchait déjà à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Versets 37-38. Dans l'expression de leur joie, les disciples étaient sous l'action de l'Esprit de Dieu qui leur donnait la pensée divine appropriée à ce moment-là. Ils commencent par louer Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et qui confirmait que Jésus était le Messie promis, mais sans produire d'effet sur le peuple. Les disciples pouvaient louer Dieu parce qu'ils avaient reçu le Messie comme tel. Mais au lieu de crier, comme la multitude céleste à la naissance du Christ, sur la terre « paix », ils disent « paix au ciel ». Celui qui devait amener la paix sur la terre est rejeté, et en conséquence, au lieu de paix, le trouble, la guerre et les jugements seront sa part. Pendant ce temps, la paix est portée au ciel, ce qui peut paraître étrange si nous ne nous représentons pas que les lieux célestes sont la sphère d'activité de Satan et ses anges. Ils sont, en effet, une puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes, Éphésiens 6, verset 12.
Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.
En Apocalypse 12, verset 10, Satan est appelé l'accusateur de nos frères qui les accusaient jour et nuit.
Et jouis une grande voix dans le ciel disant, « Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité. »
Après l'enlèvement des saints, avant l'apparition glorieuse du Seigneur, Satan et ses anges seront précipités du ciel et descendront sur la terre pour y exercer leurs ravages au milieu des hommes. Apocalypse 12, verset 9.
Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Ils ne pourront plus rien faire contre les croyants dans le ciel où régnera la paix, comme le proclamèrent les disciples, en vertu de ce que le Seigneur y est entré en vainqueur, après avoir achevé l'œuvre de la croix. Lors de l'établissement du règne, Satan sera lié pour 1000 ans, et alors s'accomplira ce qu'annoncèrent les anges à la naissance du Seigneur, paix sur la terre. La paix régnera lors de ce beau règne durant lequel Satan aura été mis dans l'impossibilité de nuire aux hommes. En entendant les disciples donner essor à leur joie, les pharisiens, étrangers à cette scène merveilleuse, dirent au Seigneur, « Maître, reprends tes disciples !» Et répondant, il leur dit, « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Verset 40. Le témoignage devait être rendu à Jésus comme roi, et s'il ne se trouvait personne pour le rendre, Dieu se servirait pour cela des pierres plus dociles, sous la puissance divine, que le cœur endurci du peuple juif. Jésus pleure sur Jérusalem, versets 41 à 44.
Lecture de la parole. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants, au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. »
Lecture de l'étude. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront et te serreront de tous côtés, et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. » Versets 41 à 44. Tout dans cet évangile fait ressortir les perfections du cœur divin et humain du Seigneur Jésus. Il ressent toute la douleur de son amour à ne pouvoir accomplir ses pensées de grâce quand il voit sa ville bien-aimée, et pense à ce qu'elle devra souffrir pour n'avoir pas connu le jour où son roi la visitait en grâce. Il chercha pourtant longtemps à rassembler ses enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Chapitre 13, verset 34.
Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule s'accouvait sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu.
Il savait par le menu ce qu'elle aurait à endurer durant le terrible siège des Romains, comme tout ce qui suivrait, jugement dont il parle encore au chapitre 21, versets 5 à 24.
Et comme quelques-uns parlaient du temple et disaient qu'il était orné de belles pierres et de dons, il dit, « Quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. » Et ils l'interrogèrent, disant, « Maître, quand donc ces choses auront-elles lieu ? Et quel sera le signe quand ces choses devront arriver ? » Et il dit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi, et le temps est proche, n'allez point après eux. Et quand vous entendrez parler de guerres et de séditions, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais la fin ne sera pas tout aussitôt. » Alors il leur dit, « Nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes, et il y aura des sujets d'épouvantement et de grands signes du ciel. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l'avance de votre défense, car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. Et vous serez aussi livrés par des parents et par des frères et par des proches et par des amis, et on fera mourir quelques-uns d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et pas un cheveu de votre tête ne périra. Possédez vos âmes par votre patience. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elles, car ce sont là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
La patience de Dieu envers son peuple, comme maintenant envers le monde, est grande. Elle excède tout ce que nous pouvons concevoir dans notre faiblesse humaine. Mais dans son exercice, elle ne peut dépasser la justice, la sainteté, la vérité divine. Il arrive un moment où sa patience, en s'exerçant encore, empiéterait sur les autres attributs de Dieu et romprait l'équilibre de ses perfections et de ses gloires, chose impossible. Car en Dieu tout est parfait. Sa grâce, sa patience, sa miséricorde, sa justice, sa sainteté s'exercent d'une manière parfaite dans son gouvernement envers les hommes. C'est ce qui donne du repos au milieu de toutes les circonstances que traverse actuellement le monde, parce que nous pouvons nous fier à Dieu. Il sait pourquoi il permet tant de choses qui nous paraissent injustes, qui le sont sans doute, de la part de ceux qui les commettent. Dieu les en châtiera en son temps, mais il a ses raisons pour les tolérer. Du lieu de sa demeure, il considère tous les habitants de la terre, il prend connaissance de toutes leurs œuvres, psaume 33, verset 14-15. Voir aussi Lamentation de Jérémie 3, verset 31-42.
Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais s'il afflige, il a aussi compassion, selon la grandeur de ses bontés, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Qu'on écrase sous les pieds tous les prisonniers de la terre, qu'on fasse fléchir le droit d'un homme devant la face du Très-Haut, qu'on fasse tort à un homme dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il point? Qui est-ce qui dit une chose et elle arrive quand le Seigneur ne l'a point commandé? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la peine de ses péchés? Recherchons nos voies et scrutons-les, et retournons jusqu'à l'Éternel, élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Nous avons désobéi, et nous avons été rebelles, tu n'as pas pardonné. Dieu voit et connaît ce que nous ignorons et pèse tout avec les balances de son sanctuaire. Il faudrait être Dieu pour comprendre les causes de tout ce qu'il permet dans son gouvernement au milieu de l'état de péché où se trouve le monde, tout particulièrement à la fin du temps de la grâce. Tant que dure la patience de Dieu, nous devons avoir les mêmes sentiments de grâce et de patience que lui. Nous ne pouvons voir le mal sans souffrir, ni l'injustice sans indignation, mais nous avons à être miséricordieux envers tous, même envers nos ennemis, si nous en avons, et nous ne pouvons, en aucune manière, désirer l'exécution des jugements de Dieu. Lorsque sa patience aura pris fin, la mesure divine étant atteinte, Dieu exécutera ses jugements. Alors les pensées des saints seront aussi en accord avec les siennes. C'est pourquoi nous voyons, en Apocalypse 11, versets 16 à 18, les anciens rendre grâce à Dieu de ce qu'il exerce ses jugements sur les méchants. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. » Et les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps des morts pour être jugé, et pour donner la récompense à tes esclaves les prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. »
Au chapitre 18, verset 20, en parlant des jugements qui tombent sur Babylone, la fausse église, nous lisons « Ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. » Ce langage ne serait absolument pas selon Dieu aujourd'hui. Si Dieu supporte l'état dans lequel se trouve le monde actuellement, ce n'est pas par indifférence à tout le mal qui se commet et à toute la souffrance de sa créature. C'est afin de faire grâce au pécheur qui se repent. Il veut encore sauver. C'est pourquoi que quiconque ne jouit pas encore du salut vienne aujourd'hui même à Jésus. Demain, ce peut être trop tard. Après un temps de patience envers son peuple terrestre, tant qu'il dura des siècles, Dieu envoya le Messie promis. Après son rejet, il attendit 40 ans encore avant de détruire Jérusalem et d'abandonner les Juifs entre les mains des gentils. Voici 20 siècles depuis la mort de son Fils que Dieu prend patience envers le monde avant de donner libre cours à sa colère, que seul l'exercice de l'amour a retenu jusqu'ici. Bientôt, en vertu du sacrifice de son Fils, Dieu accomplira envers les Juifs toutes les promesses faites au Père. Ce temps est proche, car celui de la grâce va prendre fin, ce qui dit à chacun que nous sommes arrivés à des jours solennels. Jésus purifie le temple, versets 45 à 48.
Lecture de la parole. Et il entra au temple et se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient et qui y achetaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple tâchaient de le faire mourir. Et ils ne trouvaient rien qu'ils pussent faire, car tout le peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour l'entendre.
Lecture de l'étude. Jésus vient au temple et en chasse ceux qui vendaient et achetaient, disant, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière. » Ésaïe 56, verset 7. « Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Verset 46. Allusion à Jérémie 7, verset 11.
« Cette maison, qui est appelée de mon nom, est-elle une caverne de voleurs à vos yeux ? Moi aussi, voici, je l'ai vue, dit l'Éternel. »
Lorsque le Seigneur viendra régner, il purifiera le temple, lieu d'adoration de Jéhovah, qui aura été souillé par les Juifs apostats et les nations. Ici, nous avons une figure de la chose dans le fils de David, qui vient d'entrer comme roi dans la ville. Le temple était souillé par les Juifs qui prétendaient encore servir Dieu en rejetant son Fils. L'importance du commerce des animaux nécessaires au sacrifice l'avait emporté sur le sérieux dû à la maison de l'Éternel. C'est facile à comprendre, étant donné les dispositions mercantiles du peuple. À ceux qui se trouvaient trop éloignés du lieu que l'Éternel aurait choisi pour y faire habiter son nom, Moïse avait, il est vrai, prescrit de prendre l'argent du bétail qu'il consacrait et d'en acheter au lieu où il viendrait sacrifier. Voir Deutéronome 14, versets 23 à 26.
Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses les transporter parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop éloigné de toi, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les donneras pour de l'argent, et tu serreras l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu donneras l'argent pour tout ce que ton âme désirera, pour du gros ou du menu bétail, ou pour du vin, ou pour des boissons fortes, pour tout ce que ton âme te demandera, et tu le mangeras là, devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison.
Quand on se trouve dans un mauvais état moral, on garde les formes du culte au profit de la chair. Ce qui a lieu avec le judaïsme dégénéré, s'est renouvelé avec le christianisme dégénéré de nos jours. Malgré le triste état du peuple et la proximité de son rejet, Jésus ne se lasse pas d'accomplir son œuvre. Il enseignait tous les jours dans le temple, tandis que les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le tuer. Mais il ne pouvait rien faire parce que le peuple se tenait suspendu à ses lèvres, verset 47-48. Tant que le service du Seigneur n'était pas accompli, personne ne pouvait se saisir de lui. Il se livra par obéissance quand vint son heure. En principe, il en va de même dans les jours où nous sommes. Tant que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée dans ce monde, la puissance du mal n'aura pas le dessus, malgré toute l'activité qu'elle déploie sous des formes diverses pour se débarrasser de ce qui la gêne et amener les hommes sous le pouvoir de Satan. Quand ce qui retient sera loin, de Thessaloniciens 2, verset 6, cette puissance aura son libre cours.
Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps.
Que tous ceux qui en sont avertis écoutent la parole de Dieu, afin de ne pas se trouver sur la terre dans un moment pareil.